Té Combe, la fortune de Luc. Première partie. Luc Offrant remontait le sentier couvert dont les lacets s'enfoncent dans la gorge du Doubs, un joli sentier frais, éclairé d'une lumière discrète que tamisait la ramée. Au bord du chemin, l'aurore à la tige svelte faisait briller ses riches teintes de pourpre et d'indigo, la corridale aux fleurs brunes répandait dans l'air un vague parfum. Ça et là, des sources vives jaillissant sous la mousse traversaient le sentier, faisaient reluire les cailloux blancs et couraient avec un joyeux gazouillis se cacher sous les fougères de l'autre pente. Un grand chien au poil fauve, qui suivait le jeune homme, trempait sa langue en passant dans cette belle eau claire. Il la lapait d'un air réfléchi et connaisseur, comme si on l'eût chargé de présenter un rapport sur les qualités distinctives des diverses sources de Mauron. De temps en temps, son maître le houspillait du bout de sa baguette d'églantier que terminait un mouchet de jeunes feuilles. De l'autre main, il tenait un gros bouquet de muguet fleuri. Luc Offrant avait 19 ans, mais à voir sa haute taille et ses larges épaules, on lui en eût donné plus de 20. Un mélange de force et d'indolence prêtait à sa personne un cachet tout particulier. Il marchait en flâneur, en homme qui a toute la journée devant lui et ne sait qu'en faire. Mais ses yeux gris avaient un regard vif, intelligent et qui semblait courir en avant. Son visage un peu maigre était hâlé par le grand air, sa longue blouse de toile grise semblait dénoter l'ouvrier plutôt que le paysan. « Ici, Lyon » fit-il en se retournant d'un air presque impérieux. Mais l'instant d'après, une expression de nonchalance distraite reparut sur ses traits et il se mit à siffler pour imiter la grive, qui faisait entendre ses cadences perlées dans l'épaisseur du bois. Elle s'y laissa prendre, tant l'imitation était correcte, et y répondit par d'autres roulades. Le dôme de feuillage commençait à s'éclaircir et bientôt s'écarta tout à fait. Le sentier déboucha en pleine et vive lumière sur le plus riant petit plateau qu'on put voir. Accroché, pour ainsi dire, tout au bord de la brisure profonde où roulent les eaux vertes du Doubs, resserré entre une pente boisée et la formidable paroi de rochers qui lui fait face, il brillait, par cette belle matinée de printemps, de la plus admirable variété de tons verts où les yeux puissent se baigner. Le velours de ses vergers, la feuillée légère et comme nuageuse des jeunes hêtres, la teinte plus dorée des sureaux, la coque sombre des gros bourgeons du plâne, le vert bleuâtre des sapins et le vert métallique des feuilles de l'érable, la teinte soyeuse des chatons du saule et la couleur gaie des longues grappes du merisier entre leurs éventails de feuilles minces, toute la gamme du vert, en un mot, éclatait et se fondait en nuances infinies sous un soleil rayonnant. À demi ébloui en sortant du clair-obscur des arbres, Luc abrita ses yeux de la main et aperçut à quelques pas deux étrangers immobiles, apparemment fort attentifs à quelque bruit. « C'est vous qui faisiez la grive, hein ?» s'écria l'un d'eux en apercevant le jeune homme. Luc, un peu surpris de cette brusque interpellation, s'arrêta pour regarder l'étranger. « Oui et non, ça dépend, » répondit-il assez sèchement. Le visage de son interlocuteur n'avait pas eu le don de lui plaire. C'était une large face d'homme prospère et satisfait de lui-même, une de ces figures dont la jovialité protectrice et familière semble offensante aux gens d'un tempérament ombrageux. « Comment ? » s'écria le gros monsieur, et les lobes épais de ses grandes oreilles, déjà teints d'un beau pourpre, prirent une nuance plus foncée. « Comment ça dépend ? De quoi ça dépend-il, sa perlotte ? Il faut être deux pour causer. » Quand je suis en conversation avec la grive, c'est tantôt elle et tantôt moi. Voilà pourquoi j'ai dit « ça dépend ». Luc s'était adossé au mur croulant qui bordait le sentier et avait repris son ton indifférent. Ne trouvant aucun plaisir à considérer plus longtemps le visage rougeau du gros monsieur, il se tourna vers la troisième personne du petit groupe. C'était une jeune fille d'une vingtaine d'années, peu jolie, mais d'une tournure fort élégante. L'entretien semblait lui déplaire. Elle s'était assise un peu à l'écart et fouillait la mousse du bout de son ombrelle. Les volants brodés de sa robe de percale s'arrondissaient sur le gazon, laissant entrevoir la fine pointe d'un pied qui frétillait d'impatience. « Pauline, dit le gros monsieur en se tournant vers elle, veux-tu ce muguet ?»« Mais, papa, fit la jeune fille d'un air embarrassé. Il n'y a pas de « mais papa ». Le veux-tu, c'est le premier de l'année. Voyons, combien le bouquet ? Demanda-t-il à Luc en ouvrant déjà son porte-monnaie. Il n'est pas à vendre, répondit Luc froidement. Comment pas à vendre ? Pour quelle raison alors vous promenez-vous par les chemins avec vos bouquets ? Je voudrais bien le savoir. Voyons, voyons, faites votre prix. Mon bouquet n'est pas à vendre, répéta Luc impatienté. Mais comme il allait passer devant la jeune fille, elle se tourna vers lui. « Vous le donneriez, peut-être » dit-elle avec un sourire. Elle mit beaucoup de délicatesse dans ce mot dont le jeune homme lui sut gré. « Avec bien du plaisir, mademoiselle, » répondit-il, « si ce bouquet était le second de l'année. Le premier ne m'appartient pas. »«
Vraiment ? À qui donc appartient-il ? » ?»«
À ma cousine. » « Le premier bouquet est-il chaque année pour elle ?» demanda Pauline en ouvrant son large parasol dont la doublure rose laissait tomber un chaud reflet sur ses joues trop pâles. « Oui, chaque année, depuis que j'étais un gamin haut comme ça. »« Où la galanterie va-t-elle se nicher ?» fit le gros monsieur d'un ton rogue. « C'est comme la politesse, » répliqua Luc sèchement. « On ne la trouve pas toujours où l'on s'y attendrait. » Cette fois, les joues de Pauline s'empourprèrent sans que le reflet de son ombrelle y fût pour rien. Elle se leva. «
Partons-nous » dit-elle en se rapprochant de son père.
Luc semblait indécis. Il avait parlé de politesse, c'était le moment de prouver la sienne. « Si mademoiselle tient à avoir du muguet, elle aurait peut-être du plaisir à le cueillir elle-même, » dit-il. « Je pourrais vous montrer le coin où j'ai trouvé celui-ci. » « Bon, l'affaire s'arrange. Ça te va, Pauline ?»«
Très bien, » répondit-elle en adressant à Luc un petit signe de tête.
Elle prit les devants et se mit à descendre le sentier d'un pied ferme et laisse, un vrai pied de montagnarde qui ne branchait pas sous les pierres roulantes. Sa taille souple, moulée dans un corsage fort juste, son cou mince que cachait en partie une masse de cheveux blonds noués très bas sur la nuque, sa robe claire aux plis élégants, se détachait sur le fond sombre de la futaie. Luc prenait plaisir à la suivre du regard et pensait à son joli sourire.
« Quel est votre nom, jeune homme ?» demanda le gros monsieur avec ce sans-gêne qui irrite la susceptibilité.
« Luc Offrant, puis-je savoir le vôtre ?» Son interlocuteur était de ces gens qui prennent volontiers des libertés mais n'entendent pas qu'on leur rende l'appareil.
« Hein ?» fit-il en considérant Luc comme s'il découvrait en lui quelque jeune socialiste animé de dispositions subversives.
Mais il songea aussitôt à un excellent moyen de rétablir la distance que son compagnon semblait trop disposé à franchir. Il tendit à Luc une carte qu'il tira de son portefeuille et qui portait ces mots « Dorval Moller, fabricant d'horlogerie ». « Tiens, » dit Luc en y jetant les yeux, « mon père est un de vos ouvriers ». M. Moller se redressa et parut satisfait. La distance était établie. « Est-ce que votre père habite dans ce voisinage ? » demanda-t-il. « Notre maison est à un quart d'heure d'ici, en suivant la côte. »«
Je me souviens, en effet, » reprit M. Moller, « que mon visiteur se plaint souvent d'un nommé Louis Offrant, planteur d'échappement, le moins ponctuel de tous nos ouvriers. C'est donc votre père ?»
À cette question agréablement posée, Luc ne répondit pas.
« Vous travaillez avec lui ?»«
Non, il n'a jamais eu le temps de m'enseigner son état. Nous avons un petit domaine, c'est moi qui m'en occupe. »«
Votre père est très habile dans sa partie, » reprit M. Moller. « Nous lui donnons toutes nos levées visibles. C'est dommage qu'il ne vous y ait pas mis avec lui. »«
Grand dommage, » fit Luc à demi-voix, comme s'il se parlait à lui-même. Son compagnon l'entendit soupirer.
« Vous n'aimez pas trop la fourche et le râteau, hein ?»«
J'aimerais autant ça qu'autre chose, » répondit Luc, « si seulement ça m'occupait. Mais notre domaine est trop petit. Je pourrais débrancher 4 fois plus de besogne. C'est ce qui me tue, » ajouta-t-il en laissant tomber ses bras d'un air découragé.
« Vous n'êtes pas encore prêt d'en mourir, » fit M. Moller brusquement.
« Et comme ça, vous employez vos loisirs à mugueter pour votre cousine ?»«
Je n'avais plus rien à faire ce matin, » dit Luc vivement. « Nos pommes de terre sont plantées, j'ai remis des manches à tous les outils, il n'y a plus une toile d'araignée dans l'écurie. Notre vache est à la pâture, je ne peux pourtant pas lui chasser les mouches pour m'occuper. Je n'aime pas la flânerie, allez, c'est un rude boulet. » Pourquoi ne venez-vous pas chercher du travail en ville ? Demanda M. Moller, que cette soudaine véhémence avait surpris. Mon père n'y veut pas consentir. Il se tut, car Pauline, assise au détour du sentier, les attendait. Ils étaient parvenus à un endroit où la côte, qui dévalait presque à pic jusqu'au fond de la gorge, était coupée par une sorte de replan en corniche, au pied duquel serpentaient les lacis du sentier. Ce promenoir suspendu, fort étroit, s'enfonçait sous les arbres et disparaissait bientôt aux yeux. « C'est le chemin du Muguet, » dit Luc, qui ne put s'empêcher de rire en voyant la grimace de son compagnon. « Pas commode, votre chemin, pour un homme de mon poids. Tu tiens bien à ton Muguet, Pauline. »«
J'irai seule, papa, restez ici. » »«
Mais pas du tout, je déteste attendre. » »« Il n'y a aucun danger, » dit Luc. Le pas s'élargit un peu plus loin, et d'ailleurs, les arbres servent de barrière. Ils avancèrent donc le long de la corniche, en suivant l'ordre traditionnel des poules qui vont au champ. Une fraîcheur un peu humide régnait sous les branches abaissées des hêtres. Les feuilles du coucou étoilaient la mousse de leurs trèfles légers. Bientôt, quelques vertes plantes de muguet se laissèrent apercevoir dans les endroits les plus ombragés.
« J'en vois !» s'écria Pauline en entourant de son bras le tronc mince d'un jeune arbre pour se laisser glisser sur la pente inférieure.
« Il y en a bien davantage plus haut, » dit Luc, « mais n'y venez pas, c'est dangereux. » Et laissant son bouquet à lui sur le bord de la corniche pour avoir les mains libres, il escalada la rampe d'un bond. Pauline le suivit un instant du regard, puis, lorsqu'il eut disparu, elle se mit à cueillir les tiges frêles du muguet qui secouaient tout autour d'elle ses sonneries de clochettes embaumées. Elle en eut bientôt la main pleine et remonta dans le sentier. Son père s'était éloigné pour chercher un point de vue. Elle s'assit et jeta un regard furtif sur le bouquet de Luc posé non loin d'elle. Un léger sourire effleura ses lèvres, elle se baissa, enleva d'un geste rapide les fleurs convoitées et jeta son bouquet à leur place.
« Sa cousine aura le mien, » dit-elle avec un rire malicieux.
Puis, se renversant contre la vieille souche à laquelle elle s'adossait, elle plongea son visage dans la gerbe odorante. Jamais le parfum du muguet ne lui avait paru si délicieusement capiteux. Au bout de quelques minutes, un craquement de branches lui fit tourner la tête. C'était Luc qui redescendait avec sa moisson.
« En voilà une haute. Vous ne pourrez jamais tenir tout ça. »
La main de mademoiselle Pauline, dégantée, était en effet très petite et semblait encore plus frêle et plus blanche à côté des grands doigts bruns de Luc. Le contraste parut les amuser tous deux. « Quelle jolie main !» fit Luc involontairement. Elle la retira aussitôt et le jeune homme rougit jusque dans la masse de ses cheveux châtains. En cet instant, M. Moller reparut sans avoir trouvé son point de vue.
« Papa, » dit la jeune fille en s'avançant vers lui, « laissez-moi mettre ces fleurs dans votre herbier. »
La longue boîte verte qu'il portait en bandoulière fut donc capitonnée de mousse fraîche, puis remplie de muguet. Pauline en garda un seul brin qu'elle mit à sa boutonnière. Quand Luc Offrand se baissa pour reprendre son bouquet à l'endroit où il l'avait mis, Pauline, un peu inquiète, le suivit du regard à travers ses cils baissés. Mais comment eût-il pu s'apercevoir de la substitution? Rien ne ressemble plus à un bouquet de muguet qu'un autre bouquet de muguet. Luc quitta donc le fourré sans le moindre soupçon. Tous trois regagnèrent le sentier principal. Alors M. Moller se tourna majestueusement vers son guide.
« Merci de votre obligeance, mon garçon, » dit-il. « Ne prenez pas la peine de venir plus loin. »
« Je n'en avais pas la moindre intention, monsieur. »«
Et voici de quoi vous rafraîchir, » reprit le gros homme en glissant un franc dans la main de Luc. À sa grande surprise, celui-ci recula d'un air offensé.
« Donnez-le au premier pauvre que vous rencontrerez, » dit-il.
« Mais votre peine vaut bien un petit dédommagement. Vous vous êtes détourné de votre chemin pour nous. »
« Je n'avais rien de mieux à faire, » répondit Luc avec un peu de hauteur. « Mademoiselle et monsieur, je vous souhaite une bonne promenade. » Et, soulevant son chapeau, il s'éloigna rapidement. Monsieur Moller n'en revenait pas. Il déclara 10 fois de suite que ce garçon était un drôle de corps, que, dans sa position, refuser un pourboire était imprudent, présomptueux et même immoral, et que ce jeune homme ne ferait jamais son chemin dans le monde. Ce verdict, une fois rendu, M. Moller se sentit soulagé. Cependant, Luc remontait le sentier et repassait en esprit toutes les circonstances de cette rencontre où sa fierté ombrageuse avait reçu plus d'une blessure. Cependant, le mot de la jeune fille avait pour lui la douceur d'un baume. « Vous le donneriez, peut-être »« Est-ce que je n'ai pas le droit, s'écria-t-il en s'arrêtant au milieu du chemin, de donner ce qui est à moi, mon temps et ma peine, ou une poignée de fleurs si je n'ai rien de mieux ?»« Payez, payez, voilà le refrain de ces gens riches qui croient que tout se vend. Mais il a beau faire, il a dû accepter mes services gratuitement, et c'est lui qui est mon obligé. » À moins cependant, se dit-il avec une certaine amertume, que l'honneur de leur société ne soit une compensation suffisante. Puis il revit la main blanche de Pauline, cette main qui s'était retirée si vite, comme si elle eût craint d'effleurer la sienne, ses veines bleues qui couraient sous la peau satinée, la bague de turquoise passée à l'un des doigts, et il songea qu'il n'avait jamais rien vu de si fin ni de si délicat. Un instant, il eut comme la vision d'un monde de raffinement et d'élégance dont cette petite main aurait entr'ouvert la porte. Mais tout à coup, la figure rougeaude de M. Moller lui revint en mémoire, sa brusquerie offensante et son manque de tact. « Nous sommes tout aussi distingués que lui chez nous, » pensa Luc. Parvenu de nouveau au petit plateau où il avait rencontré les deux promeneurs, il quitta le sentier principal qui prenait la côte en écharpe, traversa une prairie doucement inclinée et s'enfonça dans un petit bois. Ces chaînes du Jura, qui, de loin, semblent des croupes uniformes, abondent au contraire en surprises, en escarpements imprévus, en terrasses, en petits vallons cachés derrière des replis de terrain. Luc, ayant laissé le chemin frayer et ses gros cailloux, gravit lestement deux ou trois rampes, toutes tapissées de cette mousse qui rebondit sous le pied, rendant la marche élastique et facile. Tout à coup, Lyon se mit à aboyer et s'élança en avant. Du sommet de l'éminence rocheuse où se tenait Luc, on découvrait une combe verdoyante, bien abritée contre le vent, au fond de laquelle se blottissait une maison solitaire. Une légère fumée montait de l'immense cheminée conique qui surmontait le toit en bardeaux noircis. Un groupe de merisiers fleuris et quelques lilas répandaient leur ombre sur l'herbe touffue. Dans le jardin, les semis commençaient à verdir en ligne régulière. Plus loin, un petit champ soigneusement pioché faisait une grande tache brune au milieu des prés tout jaunes de renoncules. Derrière la maison, sur le pont de grange, Lyon aboyait de toutes ses forces pour annoncer l'arrivée de son maître, mais sans réussir à effrayer un gros chat noir qui prenait un bain de soleil. « Voici notre Luc !» dit une voix douce, un peu lente. Une femme d'une cinquantaine d'années, belle encore, mais très pâle et d'apparence délicate, vêtue d'une simple robe d'Orléans gris, sur le corsage de laquelle se croisait un fichu d'une éclatante blancheur, parut dans la baie de la porte. Luc descendait de l'éminence en grandes enjambées. Bientôt, ses pas résonnèrent sur les dalles polies de la petite cour. « Bonjour, mère, dit-il. Tu n'étais pas encore levée ce matin quand je suis partie. » « Non, Claire m'a dit que tu étais sortie de bonne heure. Elle commence à languir après son bouquet de fête, sais-tu? Tu reviens tard. » J'ai rencontré à la Rosière des promeneurs qui ne connaissaient pas le coin du Muguet et je suis descendue un bout de chemin pour le leur montrer. Le visage de Luc s'obscurcit à ces mots. Il resta un instant les sourcils froncés, les yeux fixés à terre, cherchant à chasser l'impression pénible d'humiliation que, dès ce jour-là, l'odeur du Muguet, chaque fois qu'il la respira, réveilla aussi vive. Sa mère vit bien ce nuage, mais ne fit aucune question. « Entre vite et déjeune, » dit-elle à son fils. « Le père est-il à la maison ?»« Non, il ne saurait rester à son établi par un si beau jour. Il est parti avec Finette. » Luc haussa les épaules et entra. La cuisine où l'on arrivait, après avoir traversé un petit corridor, était assez sombre, mais très spacieuse. La lumière qui tombait de la haute cheminée éclairait une table de sapin très blanc, au coin de laquelle un couvert était posé. Une cafetière ventrue, cerclée de cuivre jaune, chauffait sur le foyer, près d'un petit feu de fagot. assise non loin de l'étroite fenêtre, une jeune fille épluchait des légumes. Jolie et gracieuse comme Cendrillon, elle eût fait un lieu charmant de la plus prosaïque cuisine. Un grand tablier fourreau de cotonnade bleue l'enveloppait tout entière, sans masquer les contours charmants de ses épaules et de son corsage. Si son teint, au grand soleil de la campagne, avait perdu la blancheur des pâquerettes, il avait au moins ces teintes rosées qui brillent sous leurs frais pétales. Ses cheveux cendrés, noués dans une grosse torsade aux reflets d'or pâle, s'échappaient sur le front et le long du cou en petites boucles folles. Ses yeux avaient cette teinte changeante qu'on ne peut définir et où se reflètent, comme dans l'océan, tous les rayons et tous les orages. Luc avait coutume de dire que les yeux de Claire prenaient la couleur de ses pensées. « Te voici, déserteur !» dit-elle en voyant entrer son cousin. « D'où viens-tu ? » Il lui tendit son bouquet. « N'est-ce pas aujourd'hui ta fête ? » répondit-il. « Le muguet a fleuri exprès pour toi. » Elle sourit, choisit deux ou trois brins, en respira le parfum, puis les piqua à son corsage sous la modeste broche qui agrafait son col. « Est-ce qu'on ne me donne rien pour ma peine ?» demanda Luc. Elle lui tendit la joue sans se faire prier. « Une fois par année et entre cousins, ça ne tire pas à conséquence, » dit-elle en riant. « Voilà ce qui me fâche, » fit Luc en se penchant sur cette joue, fraîche comme la rosée de mai. « Tu ne me prends pas au sérieux, Claire. Nous sommes bien cousins, mais si peu. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Puisque tu as 17 ans aujourd'hui... » « C'est très impoli à toi de me rappeler mon grand âge, » interrompit-elle. « Veux-tu ton café, oui ou non ?» Luc s'assit au coin de la table et se mit à déjeuner. 10h30 venaient de frapper à la vieille pendule, gardine d'ornements en cuivre noirci. « Donnez-moi de la besogne, » s'écria Luc. « As-tu des commissions à faire en ville, mère ?»« Non, mon garçon, pas aujourd'hui. Claire et moi, nous n'avons pas terminé notre ouvrage. » « Ton père n'a encore rien fait de cette semaine. » Et elle soupira. Depuis 25 ans, elle soupirait et prenait patience, cette douce Madeleine. Avec un peu plus d'énergie et un peu moins de résignation, peut-être eût-elle pu réformer en quelque mesure les habitudes irrégulières de son mari. Mais c'était une nature soumise, faite pour endurer. « Qu'est-ce que je deviendrai toute la sainte journée ?» fit Luc en fourrant ses deux mains dans son épaisse chevelure avec une sorte de désespoir. « Je crois, ma parole, que je vais démolir un coin du toit pour avoir ensuite quelque chose à raccommoder. Maman, si pourtant le père avait voulu m'apprendre son métier... »« Vous n'auriez eu ni l'un ni l'autre assez de patience, » répondit-elle de sa voix résignée. « Au bout de 2 jours, il se serait attendu à te voir limer aussi bien que lui. » À la première faute, il se serait fâché, tu lui aurais tenu tête et les outils auraient volé dans tous les coins. Cette fois, Luc laissa tomber sa tête dans ses mains. « Peut-être, dit-il, mais il aurait fallu me mettre en apprentissage hors de la maison au lieu de me garder ici comme domestique à tout faire. » Il se leva et poursuivit d'un ton passionné. « Je suis fort, j'aime le travail, mais sans un métier au bout des bras, que veut-on que je fasse ?» Me voici à 19 ans, aussi dépendant qu'à 12. Je n'ai pas un sou que je puisse dire à moi. C'est vrai que j'ai la vie douce et pas grand-chose à faire. Mon chien aussi a la vie douce, mais il est à la chaîne. Luc, interrompit la jeune fille, regarde ta mère. Elle était appuyée contre la muraille, immobile, la tête inclinée. Des larmes coulaient sur ses joues blanches. Pardon, murmura Luc, subitement calmé. « Mon pauvre garçon, » dit-elle en fixant sur lui ses yeux tristes, « nous avons gâté ta vie. J'ai toujours cherché la paix. J'ai cru faire pour le mieux en ne contrariant pas ton père. Il aurait fallu lutter peut-être, mais je n'en avais pas la force. »« Ma reine, » dit Claire, « ne parlez pas de vie gâtée. À 19 ans, on a du temps devant soi. Il se rattrapera à la première occasion, et les occasions se rencontrent toujours quand on les cherche. » Elle se leva, secoua son tablier sur le foyer et, s'approchant de sa marraine, l'embrassa tendrement. « Je vais me mettre à l'établi, » dit-elle, « avec mon joli bouquet pour me tenir compagnie. Luc, tu n'as pas encore puisé d'eau ce matin. » Elle entra dans la chambre ensoleillée où deux grands violiers jaunes répandaient cette odeur pénétrante qu'on dit passée de mode aujourd'hui, mais qu'affectionnaient nos grands-mères. Les deux fenêtres basses étaient séparées par un trumeau fort étroit. Un grand établi de chêne s'étendait dans toute la longueur des croisées. Plusieurs tours y étaient fixées et une quantité d'outils le couvraient. Mais un grand morceau de serge verte en cachait une partie, comme si cette place, indiquée par un tabouret à vis repoussé sous l'établi, eût été longtemps inoccupée. C'était la place de Louis Offrant, le père de Luc. Son burin fixe ne travaillait guère que 3 jours sur 6. Claire et sa marraine faisaient, elles, chanter du matin au soir la roue de leur tour de pierriste. C'étaient d'habiles ouvrières. Leurs gains, joints aux produits du petit domaine, suffisaient aux besoins du ménage. Luc portait l'ouvrage à la ville, éloigné de 2 lieues environ. Ses courses, qu'il faisait en compagnie de Lyon, rompaient un peu la monotonie des semaines. Mais elles étaient loin de satisfaire son besoin d'activité. Tout ce qu'il entreprenait, il exécutait vite. Arrivé au bout de sa tâche, il en cherchait une autre, et s'il ne trouvait rien, il s'enfonçait dans le plus noir ennui. Jusqu'à 16 ans, il avait suivi l'école régulièrement chaque hiver. Une heure de chemin dans la neige, par le plus mauvais temps, ne l'effrayait pas. Il enfonçait jusqu'à mi-corps dans les menées et ne songeait qu'à ne pas mouiller ses livres. Il aimait l'étude, non pour elle-même peut-être, mais en esprit ambitieux et pratique qui veut s'en faire un moyen de parvenir. Pendant l'été, Luc relisait ses cahiers. Il apprenait presque par cœur les quelques livres que le régent lui laissait pour sa provision. Ce qu'il savait était peu de choses, mais il le savait bien, l'ayant tourné et retourné sous toutes ses faces dans ses longues méditations solitaires. Il avait l'esprit chercheur, en même temps qu'un sentiment très vif des lacunes de son instruction. Il pressurait, pour ainsi dire, les peu nombreux volumes de sa bibliothèque afin d'en extraire jusqu'à la dernière goutte de leur suc précieux.